Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Avec nous, chaque jour, partez à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Nous poursuivons aujourd'hui notre série spéciale que vous retrouverez un jeudi sur deux toute cette saison. Elle est consacrée à l'un des plus grands procès de ces dernières décennies qui se déroule en ce moment, celui évidemment des attentats du 13 novembre 2015. Nous avons voulu le suivre avec Maître Audrey Lacroix. Elle est avocate au barreau de Mont-de-Marsan. Maître Lacroix représente l'une des parties civiles, un homme originaire de Dordogne qui se trouvait ce soir-là au Bataclan. Durant 8 mois, elle se confiera au micro de Ludivine Tachon de l'équipe Podcasting.
Depuis le 8 septembre, les journées s'enchaînent. Trop vite. Audrey Lacroix vit au rythme du calendrier du procès du 13 novembre. Elle s'y est préparée depuis plusieurs mois. Pourtant, chaque matin, c'est une nouvelle aventure qui commence avec son lot d'imprévus, de déconvenus, sa dose d'émotions. La vie du cabinet à Mont-de-Marsan, la vie de famille et les trains qui ne partent pas parfois. Des journées souvent contrariées, mais pas de quoi épuiser l'énergie pour mener la mission qui lui a été confiée. Désormais, l'avocate maîtrise les rouages de la cour d'assises spéciale construite dans l'écrin du palais de justice parisien. Mais pour la première fois, son client s'est assis à côté d'elle, sur le banc des parties civiles, face aux accusés qui ont raconté leur vie, presque normale. Pour l'avocate, c'est une expérience humaine et professionnelle incroyable, au cœur du procès du siècle, où pour la première fois un président de la République et un ministre de l'Intérieur ont déposé leur témoignage à la barre, inédit, dans une cour d'assises.
Non, je vais très bien. Je suis juste un petit peu fatiguée, mais certainement par les déplacements, ces allers-retours plus ou moins incessants. Mais ça va, on fait avec. L'arrivée de mon client sur Paris, effectivement, c'était un moment que j'attendais et surtout que j'appréhendais parce que je ne savais pas trop où il en était depuis le début du procès. Alors, on avait pu se voir par ailleurs dans une toute autre enceinte. Je sais qu'il avait une appréhension certaine, une certaine peur de mettre un pied et de fouler cette salle d'audience. Je sais que les cauchemars avaient repris. Ben, déjà, il a pris connaissance de l'enceinte judiciaire. Il a pu se confronter aux accusés. Il y a eu un moment d'attente. Alors moi, j'étais à ses côtés dans la salle d'audience. J'ai pu m'asseoir à côté de lui dans la grande salle. J'ai attendu qu'il réagisse, qu'il parle. Ça n'a pas été évident. Et puis ensuite, l'audience a été reprise vers 13h et donc on a commencé la personnalité des accusés. Donc il a été très très attentif. Il est sorti de là assez perplexe puisque nous avons entendu les parcours des accusés qui, somme toute, sont des parcours assez normaux. À ce jour, il est toujours dans l'attente parce que le calendrier, ce que j'avais déjà pu dire, a été fait d'une telle façon qu'on n'a pas pu aborder les questions de radicalisation et de religion. Et donc, il est toujours dans l'attente de réponses sur la commission des faits et sur la transformation de ces jeunes qui ont pu tomber à un moment donné dans l'obscurantisme. Slow it down some, no split clown bum, your gold hit sound dumb, hold it now, crown them, where you found them at, got them round town, could have drowned in it, would have floated, bloated, voted, sugar coated, loaded, hip shooter, draw for the poor, free, coffee at the banks, hit through the straw, none more for me, thanks, that blanks the roar, that dank sure stank lit, sank past the pit for more hardcore prank spit, crank it on blast, roll past front street, blew the whole spot like some old ass with skunk meat, these kids is too fast, juiced off a junk tree, who could get looser off a crunk or a funk beat, something inside L'entrée dans la salle avec mon client et dans cette enceinte judiciaire, on l'a pas tant préparé que ça. Effectivement, ça a été surtout sur de la spontanéité. Moi, j'étais attentive à ses réactions. J'ai eu quelqu'un à côté de moi qui a été assez mutique, qui n'a pas parlé avec les autres victimes. Il n'est pas dans une attente de rejoindre une communauté de victimes, non. Il est assez concentré sur lui-même, donc il n'y a pas eu tant de préparation que ça. J'ai fait au fil des secondes et au fil des minutes, surtout, à essayer de l'accompagner si il devait y avoir une difficulté, s'il y avait une réaction de sa part. Mais non, tout s'est bien passé. C'était assez perturbant, effectivement, puisqu'on a simplement entendu aujourd'hui des parcours scolaires, des parcours professionnels, des jeunes hommes qui se retrouvent dans des familles aimantes. C'est trop tôt pour faire le bilan, pour dire que ça apporte, que s'il y a eu un apport certain ou pas sur les débats. On verra plus tard quand on abordera les questions de radicalisation. En tout cas, de quoi c'est vrai que c'était très perturbant. J'ai souri hein, quand mon client m'a dit finalement en sortant, finalement peut-être que j'aurais pu aller boire un verre avec ces gens-là qui me paraissent finalement, lorsqu'on n'aborde pas les questions de religion, assez normaux. Il faut attendre la suite parce qu'effectivement on a des parcours aujourd'hui qui sont assez lisses, donc je ne sais pas s'ils ont enjolivé, s'ils n'ont pas enjolivé. Je ne sais pas si c'est des stratégies de défense qui ont été adoptées par les accusés. Je ne sais pas s'ils ont été sincères. Donc, il faudra aller plus loin dans les débats et attendre, à mon sens, la question, effectivement, de cette radicalisation, la question de leur implication dans les faits pour aller plus loin sur ces personnalités qui sont assez complexes. Il y a eu, effectivement, un débat alors qui a été placé vraiment sur un terrain juridique de la part de la défense et également, finalement, de la part des avocats de la partie civile, parce qu'il n'y a pas eu l'unanimité des uns et des autres sur ces dépositions et ces citations de témoins qui avaient pu être faites à la demande de certaines parties civiles, notamment des associations de victimes. Donc il y a eu des conclusions qui ont été déposées sur l'irrecevabilité de la citation des témoins, hein, où ont été visées des dispositions du code de procédure pénale, parce que la citation de témoins est encadrée par le code de procédure pénale et également par la Convention européenne des droits de l'homme. Le débat a eu lieu, il s'est concentré essentiellement de savoir si M. Hollande, en sa qualité d'ancien président de la République, ou alors des sociologues, des philosophes tels que M. Kepel ou M. Micheron, pouvaient être considérés comme des témoins dans ce dossier. La défense a argué un certain nombre de points en nous disant qu'il s'agissait de témoins de contexte et qu'ils ne pouvaient pas apporter d'éléments sur la personnalité des accusés ou sur les faits eux-mêmes, en nous disant en plus que les témoins qui intervenaient, les témoins de contexte, n'étaient pas recevables en matière de terrorisme. Écoutez, la Cour a délibéré. Elle a estimé que M. Hollande, tout d'abord, avait été un témoin direct des attentats de Paris, puisqu'il se trouvait au Stade de France. Elle a estimé également que M. Hollande, de toute façon, était présent le 13 et le 14 novembre, et notamment dans tout ce qui a pu être mis en place par la cellule interministérielle de crise, que c'est lui qui avait décrété l'état d'urgence. Et surtout, elle a insisté sur le fait que finalement, M. Hollande, il était au cœur des débats, puisque la revendication de l'État islamique visait personnellement notre président qui bombardait en Irak et en Syrie, et donc visait M. Hollande qui se retrouvait au centre et au cœur des débats, et donc a fait droit à la citation de témoins qui était proposée par l'association de victimes. Sur les sociologues, les philosophes, il y a eu une toute autre discussion parce qu'effectivement, certains avocats de partie civile rejoignaient la défense en disant que c'était peut-être pas opportun. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a quand même un contexte particulier dans le dossier parce que depuis 2014, il y a une montée du djihadisme. On a M. Micheron qui a écrit un livre clé sur le djihadisme et notamment sur les phénomènes de radicalisation en prison ou dans les quartiers, qui peut apporter sa lumière, qui peut faire état de ses travaux. Et donc, il était important pour la cour d'assises d'avoir finalement un panel le plus large possible sur ces mécanismes. Et compte tenu de ces éléments, le président de la cour d'assises et la cour ont accepté cette citation de témoins. Et puis bon, on rappelle que le président a la police de l'audience et que donc si les témoins débordent dans leur déposition, elle est tout à fait à même de recadrer la déposition qui ne porterait pas soit sur une personnalité, soit sur un parcours, soit sur un phénomène de radicalisation. Bien évidemment que ça amène quelque chose au débat et aux victimes. Bah, déjà, ça amène quand même un éclairage. Alors, les thèses peuvent être différentes, mais à tout le moins, ça amène un éclairage certain sur un contexte syrien depuis les années et le début des années 2010. Donc oui, c'est un procès pour l'histoire. Il faut que les victimes puissent avoir l'impression que, cette sensation que toutes les zones d'ombre soient levées. Et effectivement, des travaux universitaires peuvent permettre de comprendre certains mécanismes, peuvent permettre aux victimes de toucher du doigt ces phénomènes-là. Donc moi, ça me semble, oui, pour le procès, parce qu'il est historique, parce qu'il faudra expliquer, parce qu'il faudra comprendre et parce qu'on a besoin de comprendre pour avancer, ces témoignages-là me paraissent parfaitement appropriés. C'est bien évidemment important pour les victimes parce que la première chose, c'est que ce soit de la part de l'ancien président de la République, M. Hollande, ou de l'ancien Premier ministre, Monsieur Cazeneuve, il n'y a eu aucune récupération politique lors de leur déposition. François Hollande, sa déposition s'est essentiellement placée sur le terrain de savoir si la France avait été attaquée pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle a pu faire. Donc il a pu expliquer la position de la France au niveau géopolitique, le début des frappes en Irak, pourquoi la France s'est engagée par la suite en Syrie. Il y a eu une chronologie qui a été faite par M. Hollande pour expliquer qu'on ne pouvait pas légitimer ces attentats par l'action de la France et que finalement la France avait été attaquée pour finalement ces valeurs universelles, puisque c'était un État tolérant, un État de droit, un État où le principe de laïcité est parfaitement assumé, adapté, prononcé. Ça, il n'y a pas de difficulté par rapport à M. Hollande. Sur M. Cazeneuve, ça n'a pas tout à fait été la même chose. Il a fait un exposé sur l'état de la menace en France. Alors, les victimes sont très attentives à ce fait-là parce qu'il y a des questions qui ont pu se poser sur la menace sur la salle du Bataclan, puisqu'il y avait eu des antécédents. Donc, des réponses ont été apportées sur cet état précis de menace, sur les décisions qui avaient pu être prises ou pas, et surtout sur les enseignements qu'il y avait à en tirer depuis ces attentats. Je ne suis pas persuadée que ces explications puissent apporter des éléments supplémentaires quant à la résilience pour les victimes. En tout cas, elles sont là. Je ne suis pas persuadée que ça aide les victimes dans leur reconstruction, mais c'est un élément finalement de ponctuation qui me paraît assez important parce qu'on a un contexte général et surtout toutes les zones d'ombre ou les zones qui ont pu être contestées, notamment dans certains documentaires. En tout état de cause, les personnes qui ont été amenées à témoigner ont apporté des réponses. Elles sont ce qu'elles sont. Elles sont, en tout cas, en tout état de cause, elles sont parfaitement assumées. Voilà, les victimes après apprécieront les réponses qui ont été apportées.
Kids could not, no love.
ça mérite plus, c'est même pas ça, ça ne mérite même pas le poil, ça me donne envie de vomir la récupération politique dans un tel procès. Je crois qu'il en va pour preuve les dernières déclarations de Monsieur Zemmour. C'est lamentable, c'est minable, alors j'ai pas envie d'aller sur ce sujet, donc je vais pas m'apesantir. Mais ouais, c'est assez désagréable et puis c'est complètement populiste. Donc je n'irai pas plus loin. Ce qui en est aujourd'hui, c'est que nous avons eu en tous les cas, un ancien président de la République, un ancien Premier ministre qui n'ont pas été sur ce terrain-là et qui ont été en plus d'une humanité et d'une dignité sans faille. Et je crois qu'il faudra le reconnaître. Alors oui, le 30 novembre, je ne vais pas dire de bêtises, mais 30 novembre, je suis censée intervenir sur des interrogatoires des enquêteurs belges. La préparation est simple, hein, le dossier, toujours le dossier, rien que le dossier, j'ai envie de dire. C'est uniquement ça, c'est de la lecture, c'est une connaissance parfaite des dépositions qui ont pu déjà être faites. C'est une connaissance parfaite de la personne qui a été visée par l'enquêteur belge et pour laquelle il a établi son travail et ses investigations. Donc c'est une préparation de toute façon qui est collective, hein, puisque depuis le début, ça avait été rappelé, c'est un travail qui a été fait par groupe. On va se concerter la semaine prochaine pour voir si des questions sont redondantes ou pas, certainement, si si certains ont trouvé des choses que d'autres n'ont peut-être pas pu voir dans le dossier. C'est un travail comme dans tout autre dossier, c'est vraiment ce que je dis, le dossier, toujours le dossier, rien que le dossier. Qu'est-ce que j'attends de ces interrogatoires ? Non, et aucune pression, parce qu'il y a déjà eu des dépositions, tout est déjà dans le dossier, donc il y a des connivences à faire ressortir, il y a des amitiés entre certaines personnes à mettre en exergue. Il y a des liens avec des accusés qui sont présents dans le box à établir. Non, moi j'attends simplement que la lumière soit faite sur les relations qu'ont pu entretenir, par exemple, M. Abdeslam ou M. Abrini, avec M. Damani, qui est incarcéré en Turquie et qui fait partie également de la logistique de ces attentats. C'est de démontrer que l'infraction peut être caractérisée à l'égard des uns et des autres et de voir ce qui a pu se passer avant, notamment sur des parcours qu'ils ont pu accomplir ensemble ou sur les préparatifs pour essayer d'apporter des réponses aux victimes et surtout pour pouvoir caractériser les infractions à la fin. Alors c'est pas mon travail, hein, c'est le travail de l'accusation, mais mettre en lumière les faits et la commission des infractions qui sont visées.
C'est la fin de cet épisode de podcasting. Il s'inscrit dans une série consacrée au procès du 13 novembre 2015 et à la manière dont le vit maître Audrey Lacroix, avocate au barreau de Mont-de-Marsan et qui représente l'une des parties civiles. Une série signée Ludivine Tachon que vous retrouverez un jeudi sur deux dans podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène Garay-Coetchea, Mathilde Deleuil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.